Les sources de Sigmund Freud, une série d'émissions composées et présentées par Anne Clancier. Sixième émission, Freud et la philosophie, avec la participation du professeur Paul Ricoeur.
Monsieur le professeur Paul Ricoeur, auteur de La philosophie de la volonté aux éditions Aubier, de L'interprétation, essai sur Freud aux éditions du Seuil, et d'un ouvrage récent, Le conflit des interprétations, essai d'herméneutique, édition du Seuil, va nous parler des sources philosophiques de la pensée de Freud. Pouvez-vous nous dire, monsieur, quelle fut la culture philosophique de Freud et quelle a été sa position vis-à-vis de la philosophie?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de la culture philosophique de Freud. Il a d'une part un petit bagage qui est celui d'un ancien étudiant qui a reçu des cours de philosophie, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais il y a d'autre part ce qu'on pourrait appeler la philosophie des savants, qui partage avec tout un milieu scientifique et qui n'est pas tellement la philosophie enseignée par les philosophes que la philosophie qui est toujours présupposée par les savants. Et je parlerai justement de ce double rapport de Freud avec une philosophie officielle, la philosophie enseignée, puis d'autre part une philosophie véhiculée par toute une culture.
Est-ce que les relations de Freud vis-à-vis de la philosophie sont positives ou négatives ou bien ambivalentes, pour reprendre un terme psychanalytique?
J'accepterai bien votre propos d'un rapport ambivalent. En effet, il y a d'une part, à l'égard de la philosophie officielle, la philosophie enseignée dans les chaires de philosophie, un rapport qu'on peut dire en gros négatif, un rapport d'hostilité. Et puis, d'autre part, il y a tout un travail souterrain de la pensée de Freud qui le met en rapport tour à tour avec des philosophies plus anciennes, des philosophies du XVIIIe siècle, et j'espère le montrer, alors jusqu'à une sorte de plongée dans l'inconscient même de notre culture, si l'on peut dire, qui est alors la philosophie grecque, tout près du mythe encore. Alors, si l'on considère le rapport le plus clair, le plus conscient de Freud, c'est certainement un rapport d'hostilité. Et on comprend bien pourquoi. La philosophie officielle, c'est essentiellement le néo-kantisme. Donc, philosophie qui, aux yeux de Freud, est liée à un préjugé, ce qu'il appelle lui-même le préjugé de la conscience, c'est-à-dire que toute pensée s'organise autour d'un foyer, le sujet conscient de lui-même, le sujet qui prend conscience de lui-même. Or, pour Freud, c'est l'obstacle majeur à la psychanalyse. La psychanalyse naît de cette affirmation, psychisme égale inconscient. Et il trouve en face de lui un enseignement philosophique qu'il voit résumé dans une autre équation, n'est-ce pas ? Psychisme égale conscient. Par conséquent, il faut briser un préjugé, et pour lui briser ce préjugé, c'est essentiellement briser la philosophie, pour aboutir à une sorte de nouvelle équation. Donc, ce serait là le rapport le plus visible, si vous voulez, le plus patent. Mais il y a un rapport, en somme, latent, que nous allons essayer maintenant de désimpliquer. Ce rapport négatif de Freud à la philosophie n'épuise pas du tout son rapport en somme en profondeur avec la philosophie. Je vous proposerai, le schéma devrait vous plaire comme psychanalyste, madame, je voudrais vous proposer en somme d'étager en trois plans ce rapport de Freud, ce rapport plus dissimulé de Freud à la philosophie, en allant du moins dissimulé au plus dissimulé. Et aujourd'hui, dans cet entretien, nous considérerons seulement le premier rapport de Freud à la philosophie. Nous le chercherons, si vous voulez, dans les écrits les plus théoriques de Freud, je veux dire les écrits où il a essayé de ramasser sa théorie, de la constituer, depuis 1895, c'est pas dans ce que l'on a appelé l'esquisse d'une psychologie scientifique, puis dans le groupe d'articles et d'essais écrit pendant la Première Guerre mondiale et qu'on a groupé sous le titre de « Métapsychologie ». Je pense en particulier au grand article central, l'inconscient, dont nous allons voir tout à l'heure les implications philosophiques. Eh bien, dans ce groupe d'articles, nous avons là un rapport qui est à peine dissimulé à la philosophie et qui est déjà lui-même double. D'un côté, Freud a sans cesse recours à un modèle d'explication de ce qu'il appelle lui-même l'appareil psychique. Et ce rapport, cette interprétation de l'appareil psychique, est manifestement empruntée à un modèle culturel que j'appellerais la philosophie pour savants ou la philosophie des savants. Ce modèle, c'est celui qui règne chez la plupart des maîtres de Freud, nettement positiviste et même matérialiste, et qui repose sur le principe de conservation des énergies, principe découvert par Robert Mayer en 1842 et remis en honneur par Helmholtz. Selon ce principe, la somme des forces d'un système, forces aussi bien motrices que potentielles, demeure constante, si toutefois on considère un système isolé. Et c'est manifestement comme cela que Freud a essayé de construire son appareil psychique en 1895. C'est en quelque sorte une machine qui fonctionne selon deux principes, comme il le dit lui-même, le principe de plaisir et le principe de réalité. Eh bien, il y a là manifestement un héritage de l'énergétisme en honneur chez les savants berlinois et viennois qui furent ses maîtres. Mais en même temps que ce modèle que j'ai appelé énergétique et donc dont les implications matérialistes sont évidentes, il y avait encore un autre héritage qui remontait d'un peu plus loin. C'est la tradition de Herbart qui, dès 1824, avait construit un système psychique très proche de celui de Freud, puisqu'il contient les notions d'inconscient, de refoulement, et lui aussi est compris comme un système à la recherche d'un équilibre. Il y a donc là l'idée d'une sorte de psychologie mathématique, d'un calcul de force et de quantité, qui, pour Freud, était le modèle d'une bonne théorie. Alors voilà, je crois qu'il y a ce premier rapport à la philosophie dans ce qu'il y a de plus systématique et théorique chez Freud, c'est l'application à la vie mentale, au système psychique, de principes comme le principe de constance, le principe d'autorégulation. Mais seulement, même à ce plan, Freud n'est pas complètement englouti dans ce courant matérialiste et énergétique. Précisément parce que son problème, c'était de rendre compte d'un inconscient, mais d'un inconscient qui ne soit pas un inconscient matériel, physique, biologique, mais bien un inconscient psychologique. Et je crois que là, nous saisissons ce que vous avez appelé tout à l'heure l'ambivalence de Freud, mais qui est aussi l'ambivalence, non pas de l'homme, mais de la psychanalyse elle-même, puisque la psychanalyse veut être une science, donc elle est très attachée à des modèles scientifiques, mais en même temps, c'est une science du psychisme. Par conséquent, de quelque chose que l'on atteint que par des signes, comme les symptômes, comme les rêves, et il faut enrichir ce modèle matériel, voire matérialiste, d'un certain nombre de caractères qui préservent la vocation psychologique, n'est-ce pas, de la psychanalyse. Alors, Freud ici, je pense, est en rapport avec une tradition philosophique plus lointaine que même Helmholtz ou Herbart. C'est toute la philosophie allemande du XVIIIe siècle, surtout chez Leibniz, qui avait déjà rencontré la notion d'un inconscient psychique. C'est l'idée que le psychisme est d'abord inconscient, avant d'être conscient, eh bien, les Allemands l'avaient su. Si vous voulez, les Français sont peut-être moins sensibles, étant donné qu'ils sont marqués par Descartes, ils sont moins sensibles à cette richesse de la philosophie allemande, au fond, qui a toujours lutté contre le primat de la conscience, claire. Leibniz savait très bien que ce qu'il appelait la monade, c'est-à-dire un organisme vivant, un organisme psychique, était d'abord inconscient. Et que la conscience est un problème. Comment devenir conscient pour un être qui est d'abord fondamentalement inconscient? Si vous voulez, je vous proposerai de lire dans la monadologie de Leibniz un article qui, à mon sens, annonce Freud. Leibniz écrivait en 1714 dans la monadologie « L'action du principe interne qui fait le changement ou le passage d'une perception à une autre peut être appelée appétition. » Donc appétition, désir, c'est ce que Freud appellera libido puis éros. Et il continuait, « Il est vrai que l'appétit ne saurait toujours parvenir entièrement à toute la perception où il tend, mais il en obtient toujours quelque chose et parvient à des perceptions nouvelles. » Par conséquent, pour Leibniz, ce qui fait la vie profonde d'un être, ce n'est pas sa conscience, mais ce sont les transformations dans la profondeur de son existence, de son désir. Et que la conscience est comme le plan superficiel d'expression de cette vie profonde. Il y a donc eu, toujours, dans la philosophie allemande, ce sentiment très vif que la nature précède la conscience et que dans l'homme lui-même, le désir précède la réflexion. Je cite Leibniz, mais j'aurais pu citer un philosophe pourtant de tendance rationnelle, rationaliste, Spinoza. Spinoza savait que ce qui pose un être dans l'existence, c'est essentiellement son effort pour exister. Ce qu'il appelait le conatus, l'effort, est essentiellement une tendance vers la clarté, vers plus de clarté, et qu'il y a donc dans l'existence même de l'homme un fond de désir qui est irréductible à la conscience claire. Ce qui fait que le problème de la psychanalyse est un problème singulièrement complexe, puisque il va lui falloir travailler simultanément avec deux sortes de notions. Les unes, comme j'ai essayé de le montrer, sont beaucoup plus proches des modèles matérialistes. Toutes les notions d'énergie, de déplacement d'énergie, d'investissement, désinvestissement, surinvestissement, enfin tout ce vocabulaire si important de ce qui se rapporte en somme à des mouvements d'énergie. Et puis d'autre part, les effets de sens dans la conscience, hein, de ces déplacements d'énergie. Et Freud, ici, est placé devant la tâche singulièrement complexe de faire tenir ensemble dans un unique système, et donc d'unifier dans un langage cohérent, deux traditions que nous avons pu rattacher à deux sources philosophiques différentes. D'une part, des jeux de force, et puis d'autre part, des jeux de chiffres et de déchiffrage qui font que on peut présenter tour à tour, et je pense qu'on a raison dans les deux cas, on peut présenter tour à tour la pensée philosophique implicite de Freud comme une extension du matérialisme des forces à l'inconscient, ou bien comme un élargissement de l'exégèse des textes à ce même inconscient. Et en effet, je crois que l'inconscient freudien est au carrefour d'un matérialisme des forces et d'autre part d'une exégèse des textes. C'est ça qui fait l'extraordinaire complexité et, à mon sens, l'extraordinaire richesse de la psychanalyse. Et je ne pense d'ailleurs pas qu'on pourrait lui reprocher ici une ambiguïté, même si cette ambiguïté a été servie par ce que vous appeliez tout à l'heure l'ambivalence de Freud, cette ambiguïté, mais c'est celle même de notre inconscient. Parce que cet inconscient, nous pouvons aussi bien le traiter, on peut dire, comme une chose qui fonctionne en nous, et par conséquent lui appliquer un modèle hérité de la physique et donc d'un matérialisme philosophique, et d'autre part, tout un jeu de signes qu'il faut déchiffrer, Et alors ici, la psychanalyse se trouve dans le champ de ce que j'ai appelé une science exégétique. Entre énergétique et exégétique, Freud a toujours tenté de composer des nouveaux concepts qui lui permettent de maîtriser cette espèce de contradiction profonde. Il est assez piquant de considérer que c'est au moment même où Freud exprime le plus ouvertement son hostilité à l'égard de la philosophie, précisément à cause de ce préjugé de la conscience, qu'il se réfère encore à la philosophie en disant que la critique que nous faisons ici, n'est-ce pas, de la conscience, eh bien, elle a déjà été faite par Kant, mais dans une autre situation, à savoir l'illusion que le monde extérieur existe tel que nous le percevons. Et si bien qu'on pourrait dire que lorsque Freud est le plus opposé aux philosophes, il répète encore un modèle philosophique qui est la critique de la perception. Mais alors que les philosophes faisaient la critique de la perception externe, lui, Freud, pense qu'il fait la critique de la perception interne. Voici un texte très significatif à cet égard, qui est tiré de l'inconscient. Article donc qui a été repris dans l'ensemble des essais sous le titre de « Métapsychologie ». Je lis « Il ne nous reste plus, en psychanalyse, qu'à déclarer que les processus psychiques sont en eux-mêmes inconscients et que leur perception par la conscience est comparable à la perception du monde extérieur par les organes des sens. » Nous espérons même tirer profit de ce parallélisme pour notre connaissance. L'hypothèse psychanalytique de l'activité psychique inconsciente nous paraît être d'une part une continuation de l'animisme primitif qui nous faisait voir partout des reflets de notre conscience, d'autre part la suite de la correction que Kant a entreprise à notre manière de concevoir la perception extérieure. De même que Kant nous a averti de ne pas négliger la conditionnalité subjective de notre perception et de ne pas tenir cette perception pour identique à la chose perçue inconnaissable, de même, la psychanalyse nous enseigne à ne pas mettre la perception effectuée par la conscience à la place du processus psychique inconscient qui est son objet. Par conséquent, voilà un parallélisme ici avec l'œuvre critique de Kant qui nous indique bien que la psychanalyse n'a pas épuisé son rapport à la philosophie dans cette sorte de fin de non-recevoir qui nous a servi de point de départ.
Oui, en effet, souvent Freud me paraît comme hésitant entre la biologie et la psychologie. Mais est-ce que cette hésitation n'est pas également le reflet de cette hésitation entre deux tendances philosophiques que vous venez de nous exposer ?
Oui. Je pense que la philosophie allemande a toujours été travaillée depuis le XVIIIe siècle par ces deux tendances fondamentales. Une tendance vers le vitalisme, et c'est toute la tendance qui aboutit au romantisme philosophique, à Schelling, à partir de Leibniz. Et puis d'autre part, l'influence des philosophies matérialistes, d'origine anglaise et française, et c'est celle qui a dominé les grands savants de la fin du XIXe siècle. Et Freud s'est trouvé, en somme, au carrefour de ces deux courants philosophiques. Je pense qu'un chaînon important à cet égard, c'est Goethe, que sans doute les historiens de la philosophie n'auraient pas tendance à classer parmi les philosophes, mais qui a véritablement véhiculé dans son œuvre ces deux courants. Certes, chez Goethe, la dominante est romantique, et c'est probablement cette philosophie qui va ressurgir à la fin de l'œuvre de Freud, comme nous le verrons la prochaine fois. Mais je pense que dès le début, Freud a gardé en réserve, en quelque sorte, cette influence de la philosophie romantique. Je dis dès le début, puisque nous avons le témoignage d'une de ses lettres, la lettre à son ami Fliess, qui a été traduite dans l'ouvrage intitulé « La naissance de la psychanalyse ». C'est une lettre de 1896. Voici ce qu'il écrit à son ami. « Je constate que, par le détour de la médecine, tu as atteint ton premier idéal, qui est de comprendre la physiologie humaine. Pour moi,
je nourris dans le tréfonds de moi-même l'espoir d'atteindre par la même voie mon premier but, la philosophie. Vous voyez, nous sommes partis tout à l'heure de l'hostilité de Freud à la philosophie, hostilité donc à la philosophie kantienne, à la philosophie de la conscience, mais il y a en quelque sorte occulté par ce refus de la philosophie universitaire un lien très profond à la philosophie, qu'il appelle lui-même son premier but, et qui, à mon sens, est fondamentalement la philosophie romantique et la philosophie dont nous avons vu le premier échelon dans la philosophie allemande, chez Leibniz, dans ce beau texte de la monadologie que je lisais tout à l'heure.
En effet, une chose m'a frappée, c'est que c'est la lecture d'un essai de Goethe sur la nature qui a décidé Freud à faire ses études médicales. Est-ce que vous pensez que cet essai se situait justement plus sur le versant philosophique ou sur le versant biologique? Au fond, c'est cette grande idée de nature et culture qui est importante à l'époque. Est-ce que cette idée, cette différence entre nature et culture a pu influer sur la pensée de Freud?
Eh bien, je pense que c'est d'abord ce qu'il appelle dans son essai sur Léonard de Vinci, le respect pour la nature. Il termine ainsi un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Nous avons encore trop peu de respect pour la nature, qui, selon les paroles sibyllines de Léonard, paroles qui annoncent déjà celles d'Hamlet, la nature est pleine d'infinies raisons qui ne furent jamais dans l'expérience. Et Freud continue, et c'est la dernière phrase du livre, chacun des hommes, chacun de nous, répond à l'un des essais sans nombre par lesquels ces raisons de la nature se pressent vers l'existence. Bien, moi, je pense qu'il y a là tout un fond philosophique où l'homme fait partie de la nature, il a une tâche qui est d'assumer la dureté de la vie, qui est le cadeau terrible de la nature faite à l'homme, et que toute la tâche de la psychanalyse est de réconcilier l'homme avec ce redoutable don de la nature qui est d'affronter la difficulté, la dureté de la vie.
Ce texte, en effet, est très intéressant et demanderait même une longue réflexion. Mais j'aimerais vous poser encore une question. Il m'a semblé que l'œuvre de Freud avait, dans une certaine mesure, eu pour origine le romantisme allemand. J'entends les poètes. Est-ce que la source poétique vous paraît moins importante que la source philosophique ou est-ce qu'au contraire la source philosophique est prédominante?
Freud, par sa culture très classique, a toujours été en contact avec la grande littérature allemande et on peut dire d'ailleurs la grande littérature mondiale. Il cite Shakespeare volontiers, il cite bien entendu Sophocle, et Édipe, qui est présent dès le début, dès les lettres à Flis. Et je pense que ce qui l'a touché dans la philosophie qu'il ne refusait pas, c'était la philosophie qui avait d'elle-même renoncé aux préjugés de la conscience, et qui par conséquent se comprenait comme philosophie de la vie, philosophie de la nature. Or, il pense que le malheur de la philosophie, c'est de toujours récuser ce primat de la nature, ce primat de la vie, pour imposer le primat de la conscience claire, de la raison, c'est-à-dire, en termes psychanalytiques, le plan de la dérationalisation. Et la philosophie, par conséquent, doit être pour lui guérie de son préjugé de la conscience pour être ramenée à ce qui, peut-être, avait été son lieu de naissance chez les présocratiques, d'être le témoin de la totalité vivante dans laquelle l'homme n'a pas de privilège, dans laquelle la conscience n'est pas un absolu. Et remettre toujours la conscience dans la vie et la vie dans la nature, c'est ce mouvement de retour que, je pense, la psychanalyse contraint le philosophe à faire et à refaire. C'est pourquoi, pour ma part, je vois l'instruction philosophique de la psychanalyse dans ce mouvement de renvoi par lequel le philosophe retourne sans cesse de son préjugé de la conscience vers la redécouverte des profondeurs du psychisme, derrière ces profondeurs du psychisme, l'épaisseur de la vie, et derrière l'épaisseur de la vie, la grandeur de la nature.